Alors tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people down.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Préciser.
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!
Eh bien, bonjour à cette nouveau 2026 qui nous reçoit avec beaucoup de suspension, des superpositions et des répétitions ici à Divergence dans votre émission Mon Chaussure, une émission dédiée à la pratique de la danse, à des pratiques de la danse. Et cette année, il s'annonce très bon. J'ai eu des conversations avec pas mal de personnes qui pourraient venir nous rendre visite et nous faire partie de leur univers, de leur aussi de leur façon d'expliquer la danse ou de se révéler contre la danse, parce que c'est de ça qu'il s'agit, c'est de visibiliser beaucoup de luttes qui sont minuscules par rapport à d'autres qui sont beaucoup plus qui ont beaucoup plus de trajectoires ou beaucoup plus de visibilité, tout simplement. Et donc cette communion que nous avons avec la danse ici, elle ne cessera jamais de déposer cette question, de traiter cette grand sujet qui est la composition, qui nous avait beaucoup intéressé, qui a énormément de choses encore à explorer, que j'espère mes invités de cette année pourront aussi nous illuminer avec ça, et toujours en vous souhaitant quand même beaucoup de beaux mouvements cette année, que soient plein de rencontres profondes et fécondes pour vous, et qu'on sera toujours là pour l'accompagner de la pensée en danse. Et donc on avait parlé aussi de que selon Bourrigo, Christian Bourrigo, composer c'est transformer les tensions en signes, et qu'on cessait d'essayer de retrouver l'émergence du mouvement. Comment faire émerger un mouvement qui est avec une intention ou sans une intention. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui, sans oublier comment tous ces processus de construction semblent prendre part dans les autres disciplines. Parce qu'il s'agira toujours de la transdisciplinarité, c'est-à-dire de différents savoirs qui sont partagés ou qui cherchent des mécaniques et des analytiques propres à d'autres systèmes. Et donc aujourd'hui, on va parler de Louis Horst. C'est un musicien qui, dans les années 20, a commencé à enseigner la composition aux danseurs. Et donc, lui, il voulait justement donner une part importante à faire des analogies avec les autres disciplines, et, ou plutôt de chercher des fondements ailleurs et pouvoir le faire des analogies dans la danse. Et donc, il prenait des modèles, par exemple, dans la musique. Il était le directeur musical, justement, de la compagnie de Martha Graham, cette grande figure de la moderne danse, le musicien Louis Horst, il prenait donc, par exemple, la base sur la musique, qui était son domaine professionnel, pour essayer par exemple de chercher à travers les formes, par exemple les canons, le fugue ou les symétries. Un autre exemple, c'était les contrepoints, en superposant bien évidemment des couches et des capes. Donc tout ça, c'est évidemment pris dans cette période si importante et si régulée et si ordonnée qui a été la période du baroque. Et donc là, il s'agissait de prendre des figures qui étaient ostensibles, qui étaient lisibles, pour le transposer et essayer de le reproduire avec les corps. Et donc, pas content seulement avec cette ambition, il a aussi été... il était très important pour Martha Graham parce qu'elle a permis de la faire connaître peintres comme Bancusi ou Picasso, où ils sont plus puissés, bien évidemment. On peut penser au primitivisme et tout ce travail qui a été fait pour... Et on en avait parlé une fois sur justement ce corps archaïque, cette danse archaïque qui est une sorte de code ou de langage qui serait caché dans le corps et qui va proportionner une sorte d'origine ou de logique cosmologique dans la pratique de la danse. Donc c'est là où on voit que Hirst nous a permis de comprendre que il y avait une relation avec le primitivisme, par exemple, avec le néo-symbolisme et avec l'expressionnisme et la non-figuration. Et donc dans ce cas, il s'agirait de un travail sur la dissymétrie, la distorsion, les discontinues, les dissonances, les structures contradictoires ou inattendues du space et du temps. Et donc on peut voir des matériaux sur Internet où on peut, par exemple, voir quand Bancusi filme une danseuse dans son propre atelier, on dirait que c'est la même sculpture qui bouge et qui danse. Donc c'est toujours cette ambition et relation entre les disciplines qui n'est pas toujours très aisée, très facile. Mais là, dans le cas de ce musicien dont on parle aujourd'hui, il a essayé de montrer comment faire ces ponts et ces liens entre les disciplines. Et un autre exemple qu'on peut aussi donner de ce type de travail, des collaborations ou des transdisciplinarités, c'est la Judson Church Dance Theatre. Mais cette fois-ci, c'est un recours à l'aléatoire, un recours au cut-up. C'est une sorte de collage où on va ciseler les morceaux et les coller dans un ordre à l'aléatoire, justement pour éviter une sorte d'arbitrage de la conscience et de la perception. Un autre musicien, Robert E. Dunn, a eu l'idée de pouvoir libérer les travaux de la structure de sa propre lourdeur, de la lourdeur qui la constitue, une structure en étant vue comme quelque chose de lourd. Et donc il a proposé quelque chose qui pourrait s'appeler des constructions volontaires. Et donc c'est à ces moments-là, c'est les débuts, on est en train de parler du XXe siècle, et c'est à ce moment-là qu'il commence cette envie pour chercher les partitions. Donc, d'une certaine façon, inspiré par les systèmes notationnels de la musique, la danse aussi, elle commence à avoir cette envie fou pour pouvoir et transcrire par écrit des choses qui sont de l'ordre du physique, du visuel, et la tâche elle est très, très complexe, mais ça donne beaucoup d'envie de le faire. Et donc on peut aussi entendre les mots d'un témoignage des mamies Malafaie, rapporté par Sally Bann. Je cite: pouvait aussi bien être les phases de la lune que la cuisson d'un œuf. Et là elle fait référence à comment ces partitions commencent à avoir des lois, mais des tâches qui ne sont pas forcément ce qu'on entendait dans les traditionnels, d'effectuer un mouvement, une séquence, mais cette fois-ci, c'était ça pouvait être des recettes, ça pouvait être des choses qu'on utilise au jour le jour. C'est les fameuses tâches dont on avait parlé avec dépourvues de leur sens d'origine, utilisées comme on avait dit, comme un cotap, comme un collège pour le corps et dans la danse. Et donc ça nous a donné un type de partition et de danse qui s'appelle les One Thing Dances. Donc c'est des instructions très précises qui sont des danses simples et factuelles. Et là on peut se rappeler de Schlemmer ou du Bauhaus. Ou cette époque-là aussi, on pouvait voir des constructions qui ne sont pas dans la linéarité traditionnelle et qui sont dans une inspiration qui révèle d'une crise et d'une rupture avec ces logiques-là de la linéarité, de ce que peut bien produire un mouvement. Et toujours la question s'il va avoir ou pas un nœud. Parce que dans la tradition, bien évidemment, on nous dit qu'on doit travailler, il y a un nœud, quelque chose qui après doit être dénoué. Et donc cette période du XXe siècle va faire énormément d'efforts pour contraire justement cette tradition et ne serait que pour l'idée, pour le travail intellectuelle que ça constitue, qu'elle va donner ces merveilleuses chorégraphies qui nous sont tellement qui nous fascinent à ceux qui poursuivent cette discussion intéressante de la danse. Et donc ces One Thing Dance, ils sont comme principe un élément très concret, un élément comme on a pu voir par exemple quand on faisait l'ouverture du robinet, par exemple, pour ceux qui l'ont testé. Et quelque chose de très matériel. Donc, l'objet a un rôle déterminant. Donc, on peut prendre, et c'est l'exemple qui est cité dans les livres, on peut prendre un danseur sur une planche à roulettes et le faire tirer par une corde. Et donc, en faisant cela, on enlève la subjectivité, on enlève toutes sortes d'interventions à l'intérieur. On dépouille la préméditation, on enlève cet arbitrage et on propose quelque chose qui est de l'ordre de l'aléatoire et qui va... poser énormément la question de qu'est-ce qui va se passer, comment ça va se produire, qu'est-ce qui fait que on puisse le construire à partir d'une composition qui n'est absolument pas préméditée. Et donc forcément ça va donner une ouverture aux possibilités de comment provoquer d'autres lois, comment même contraire les lois qui existent, même si c'est un peu farfelu parfois, mais c'est toujours dans cette intention de disloquer la composition et de comment la répétition d'un motif va devenir, au lieu de quelque chose de mal vu, au contraire, de quelque chose de très subtil et même de disloquant et comme je l'ai dit tout à l'heure, d'ouverture à l'infini. On fait une petite pause musicale. Je vous ai ramené aujourd'hui un groupe anglais avec une collaboration d'un autre que je me souviens plus s'il est anglais. C'est une chanson de 1994 et j'espère que ça vous plaise.
Scared of the spot. don't come to visit. I'm stuck in this bed. Thin rubber gloves. She laughs when she's crying. She cries when.
Et avec ces ondes des trip-hop, qu'au début j'ai pensé les trip-hop, j'avais beaucoup de projets sur cette musique, et en écoutant bien évidemment Portishead et ces types de musique comme Uncle, ça m'a permis de voir d'une autre façon la chose, parce que pour moi c'était juste une catégorie de musique que je pensais que je n'écoutais pas, jusqu'à ce que je me dise « Ah mais t'es l'artiste, c'est trip-hop, d'accord ». Et j'espère que ça vous a plu. Et on continue donc cette conversation absolument interminable de la composition qu'on essaye de la rendre un peu plus accessible à vos oreilles pour justement pour la discussion, pour avoir quelque chose de riche quand on regarde un spectacle, qu'on puisse participer aussi de ce monde que parfois je joue un peu élitiste, qui malgré la danse elle malgré elle-même c'est élitiste, l'art est élitiste, je le crois. Et donc on parlait justement de comment enlever l'initiative subjective, par exemple quand un danseur va danser, doit exécuter quelque chose. Et dans le XXe siècle, On a énormément de ces exemples. On avait parlé de la compagnie de Martha Graham quand elle a quitté Del Sartre, après la Judson Church Dance Theater aussi, et d'autres musiciens comme Robert Eden qui ont proposé justement de libérer les structures de sa nature lourde. Et donc et il se passe quelque chose d'intéressant à ces moments-là quand on parle de la répétition. Rappelez-vous que dans la musique, la composition, justement, le contrepoint, c'est une question de superposition et de comment, comment reprendre et faire une récurrence d'un motif. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut attribuer à une tradition, à quelque chose de traditionnel, où cette reprise, cette répétition, cette leitmotiv, pardon la redondance, mais du motif, a une intention de construction. C'est un peu le grand bouleversement de la tradition, c'est qu'aux années 60, donc, et la répétition, elle va être utilisée un motif semblable au précédent, et ça va à l'encontre de la logique linéaire, de cette logique de composition à partir de reprises et de récurrences, et qui va donner une intention de destruction de l'organisation. Donc c'est pour ça que c'est si important ces moments de la danse contemporaine, parce que c'est l'essence même de ces postulats, parce qu'il n'y a pas un seul postulat de la danse contemporaine, il y en a autant que de chorégraphes. Et cette répétition, donc, elle devient un outil absolument répété, un outil absolument utilisé par beaucoup de chorégraphes, où on va travailler l'évacuation, justement, de, par exemple, de l'intention du danseur, où on va faire passer cette sensation, et plus que sensation, cette intention de crise et des crispes de la crise du XXe siècle. Bien évidemment, il y a un élément important qui est la formulation de la loi physique de la thermodynamique, qui vont aussi permettre justement à la fin du XIXe siècle avoir une connaissance un peu plus, beaucoup plus spécifique de comment un corps bouge, non, comment, quelles lois les traversent et comment ça va l'organiser ou le désorganiser ou le stabiliser, ou dans la cosmologie on parle de l'oscillation. Un autre exemple qui vient, c'est celui de Lucinda Childs aux années 70, où elle va proposer des modules sans inflexion de temps. Et on peut noter aussi celui de Trisha Brown, où on va voir un mouvement dans un ordre avant de retourner au premier, plus une augmentation d'un motif nouveau d'une série pure. Et Trisha Brown, pour moi, c'est bien évidemment, parce qu'on peut trouver des exemples de films, bien évidemment, il s'agit toujours si on a la source, mais c'est l'exemple que je trouve le plus dire ça c'est un peu compliqué, mais que je trouve un peu plus éloquent dans ce qui concerne l'accumulation et la répétition. Et donc, on assiste là à un moment absolument splendide, parce que le spectateur va mourir. On va reconduire les présents, on va mélanger absolument ce qui est le rôle de la personne qui danse, de la personne qui regarde. Et en faisant relation à Deleuze, qui lui-même cite Hume, et je cite, la répétition n'échange rien dans l'objet qui se répète, mais change quelque chose dans l'esprit qui la contemple. Et donc ces moments-là est absolument important et élucidant de quelque chose qui se passe quand on brise cette règle de la perception. Donc si on va me donner un objet et que cet objet ne se contracte pas de la même façon, ne s'intensifie pas de la même façon et qui va être altéré, il va se passer forcément quelque chose dans celui qui le regarde, dans celui qui a l'habitude, par une question de poids par exemple, par une question gravitationnelle, qui va avoir une habitude qui va être cassée. Je ne sais pas si vous avez eu cette sensation déjà quand vous avez regardé un spectacle, des danses en général, mais parfois on attend que le corps bouge d'une telle façon qu'il finisse par exemple à gauche ou à droite ou en diagonale, etc. Et que les danseurs d'une façon un peu virtueuse tournent pas au bon moment ou tournent, c'est-à-dire pas au bon moment, tournent à un autre moment et ça donne forcément quelque chose de déstabilisant. Comme par exemple dans les cirques, on a tous eu cette sensation de vertige, mais aussi de comment il a fait pour rebondir dans tel angle, dans telle position. Et ça, c'est quelque chose d'absolument fascinant, parce que c'est pas que de ça qu'il s'agit, mais c'est de ça qu'il s'agit où on peut ressentir ces types de situations comme en tant que spectateur, et qui va changer absolument le regard qu'on a sur ce qu'on regarde, sur l'objet contemplé pendant le XXe siècle. Et donc là, on parle d'une perception sans arbitrage. Et là, un exemple qui pourrait énormément nous aider, je ne l'ai jamais testé, l'hypnose, mais l'hypnose est en partie une manipulation où on va justement jouer avec ce qui est attendu, ce qui est un peu mécanisé, un peu rendu intuitif dans notre inconscient et dans notre perception, et qui va justement jouer avec cette contraction et intensification dont on parlait tout à l'heure, où les habitudes vont changer, la sensibilité va être absolument altérée quelque part dans ce qu'on nous a appris, dans ce qu'on est censé avoir comme répertoire inconscient et qui nous aide à vivre, mais qui dans l'art et dans ces propositions de la danse contemporaine vont justement ouvrir une possibilité dans ce monde un peu absolument immense qui est la perception. Et j'insiste sur l'exemple de Trisha Brown parce que j'ai beaucoup regardé des vidéos où on pouvait justement voir comment le centre gravitaire était à l'abandon et combien il y avait un déplacement constant, comme si le corps était complètement désaxé, comme si le corps n'arrêtait pas de se mouvoir, d'être complètement dans une sorte de désordre, mais qui est un désordre qui lui est propre, qui se concerte pour faire le corps en désordre. Et ça, c'est quelque chose d'absolument perturbateur, je trouve. Quand on est dans les écoles, forcément, on essaye de suivre les techniques qui sont utilisées, de suivre les esthétiques, les façons de penser. Et le XXe siècle a été un moment historique où on a pu assister. Bon, pour ceux qui ont un certain âge aujourd'hui, j'ai des amis qui ont pu assister à des spectacles comme de Pina Bausch, et j'ai posé souvent des questions par rapport à comment ils avaient ressenti, comment ils avaient vécu cette expérience, Et parfois, c'est vrai que les mots sont parfois, on est limité en termes d'explication. Mais je trouve passionnant de pouvoir justement demander aux personnes comment ils sont perçus, comment ça leur a transformé quelque part quelque chose qui n'est pas de l'ordre du comportement d'un côté psychologisant, mais qui les a transformés quelque chose quelque part au-delà de ces constats qu'on peut faire au jour le jour. Et voilà pourquoi nous nous intéressons tellement à ces sujets de la composition, avec toujours cet appui qu'on remercie immensément de Laurence Loupe avec son livre qu'on essaye de décortiquer de la meilleure façon possible, parce que c'est quand même une prose assez dense, assez riche, qui nous stimule surtout. Dans cette construction toujours un peu d'ensemble que comme je perçois la danse, pour moi je la perçois d'une façon que c'est toute une société qui se pose des questions de pourquoi danser, de quelle manière et dans quelle époque. Et donc avec cette réflexion, je vous souhaite à nouveau en 2026 plein des choses merveilleuses. À vous qui nous écoutez ici fidèlement à Divergence, ici cette radio qui est très chère pour nous les animateurs, et qu'on apprécie énormément leur travail et le combat qui implique soutenir une radio et maintenir une radio comme la nôtre. Et donc vous êtes tous et toutes les bienvenus à participer à l'émission comme vous le voulez. Vous savez, juste à écrire ou faire un petit signe. Et voilà, et je vous donnerai des nouvelles avec mes invités et avec ces mondes de la danse qui nous fait beaucoup de plaisir. Je vous souhaite plein de beaux moments.
Alors, tu veux faire danseur?
And push. And turn. And people.
Qu'est-ce que ça te fait au juste lorsque tu danses?
Qu'est-ce que vous voulez dire par là, préciser?
Je suis heureuse et fière de faire partie de l'affiche de ce spectacle.
Transmettre au millimètre près les mouvements.
J'ai fait de la danse dans mon jeune temps.
Ça suffit, on se tourne vers le miroir, allez!